Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 10 juillet 2025, en direct des studios de choc.ca à l'UQAM, en ce beau jeudi soir, pour ceux et celles qui nous écoutent en direct sur le site de choc.ca. Donc, les Apatrides Anonymes, l'émission à chaque deux semaines, on parle d'enjeux de racisme, de frontières, de droits humains, les enjeux autochtones aussi, on parle de l'actualité internationale en lien avec les différents rapports Nord-Sud aussi. Aujourd'hui à l'émission, ben je me présente, c'est Mathieu. Je suis en compagnie de ma fidèle complice Marie-Ève.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Simon, t'es là?
Oui, je suis là. Salut.
À la mise en onde. On a une invitée aussi qui s'appelle Nadir André. Bonsoir. Pour parler des enjeux autochtones et des enjeux de traité, entre autres, et d'entente et de droits autochtones. Donc, dans quelques minutes, une entrevue d'une vingtaine de minutes. Sinon, à l'émission aujourd'hui, on vous parle aussi de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne avec les enjeux migratoires. On va parler aussi du nouveau concept de zone bulle manifestation qui est de plus en plus populaire, entre autres, en Ontario. Les zones tampons par rapport aux manifestations, suite, entre autres, aux manifestations pour la Palestine. On va parler aussi d'un extrémiste de droite canadien qui est actuellement dans le processus judiciaire, qui est condamné pour terrorisme. On va avoir les actualités africaines avec Simon aussi et les actualités françaises. Et on va avoir aussi plusieurs chansons, plusieurs pièces musicales, donc trois pièces musicales d'ici la fin de l'émission. Donc, mais je vais vous parler, avant de commencer l'émission, mini-intro, revenir sur la Journée mondiale des réfugiés qui a eu lieu le 20 juin dernier, comme chaque année depuis 2001. Cette journée vise à rendre hommage aux personnes forcées de fuir l'endroit où elles vivent, des personnes dont le nombre ne cesse d'augmenter. On en a parlé récemment à l'émission. Donc, c'était le 20 juin dernier. Cette année, la thématique, c'était la solidarité. Disons que, oui, on en aurait besoin beaucoup au niveau international actuellement. Mais pour les ONG, les financements qui viennent en aide aux réfugiés ne cessent de baisser. Je cite un porte-parole de Handicap International. On a déjà constaté une baisse de l'aide humanitaire internationale de 10 % en 2024. On s'attend en 2025 à beaucoup plus, puisque les Américains se retirent.
Effectivement.
Et il était au niveau de 45 % du financement international. Et on a des grosses craintes pour 2026, parce que beaucoup d'États, dont la France, l'Allemagne et aussi l'Union européenne, qui étaient traditionnellement des grands donateurs de l'aide humanitaire, ont déjà annoncé des coupures avec les nouveaux gouvernements, entre autres de droite en Allemagne. Donc, on rappelle qu'on compte aujourd'hui 120 millions de réfugiés déplacés dans le monde. C'est le dernier chiffre du mois de juin de l'ONU. Sinon, ben au niveau local, je voulais quand même citer la déclaration du Centre des travailleurs, travailleuses et migrantes qui s'appelle « Aucun refuge dans la forteresse Canada ». En cette journée mondiale des réfugiés, nous refusons l'hypocrisie. Je lis des petits extraits avant de terminer là-dessus. Alors que les policiers d'Ottawa publient des déclarations creuses sur l'accueil des réfugiés et célèbrent les prétendues valeurs humanitaires du Canada, nous, au Centre, refusons de participer à cette hypocrisie. Tandis que le gouvernement brandit à l'étranger son drapeau de la diversité et continue de bâtir une forteresse ici, avec la loi sur les frontières solides, là, c'est une traduction, là, le projet de loi C2, son administration a ancré la dérive du Canada vers un modèle brutal et carcéral de gestion migratoire. Ce n'est pas une mauvaise gestion administrative, c'est une violence frontalière néolibérale, une stratégie consciente de criminalisation de la migration, de division de la classe ouvrière et de maintien d'une main-d'œuvre jetable sans droit ni stabilité. Mais c'est un bon texte, si vous voulez le lire, c'est le CTTI, donc le Centre des travailleurs, travailleuses et migrants, qui ont sorti cette déclaration pour le 20 juin, donc Journée mondiale des réfugiés.
Oui,
vas-y,
donc,
Marie-Ève, je te laisse la parole.
Je saute dans l'arène. Je suis donc avec Nadir André. Bonjour Nadir, ça va?
Oui, ça va très bien.
Merci d'être ici. Nadir est membre de la Première Nation Matimekosh Lac John sur la Côte-Nord, avocat spécialisé en droit autochtone, entre autres dans le cadre là, de négociations autour des revendications territoriales au Québec, en Ontario et au Manitoba. Tu t'intéresses aussi aux dossiers liés au projet d'exploitation des ressources naturelles dans lesquels sont impliquées les communautés et les entreprises autochtones. Et donc, avec Nadir, on va parler des ententes et des traités là, entre les gouvernements et les nations autochtones. C'est un gros programme. Si on a le temps, on va aussi se pencher sur toute la notion d'usurpation ou de prétention d'identité autochtone, à la fois individuelle et collective. Donc, on verra ce qu'on a le temps de couvrir aujourd'hui, selon si Nadir est loquace ou pas. juste avant de commencer, on a convenu qu'on se tutoyait, donc...
Tout à fait.
Juste vous avertir, chers auditeurs, auditrices. Donc, on va commencer par la base. Nadir, est-ce qu'il y a une différence entre un traité et une entente? J'imagine que oui, mais c'est quoi la différence?
Ben, ça dépend évidemment ce qu'on entend par une entente, mais de façon générale, les traités, premièrement, sont protégés par la Constitution à l'article 35. Fait que ça, c'est déjà une distinction. Il existe trois types de traités au Canada. Les premiers qui ont été signés, c'est ce qu'on appelle des traités de paix et d'amitié, notamment les nations Mi'kmaq, Malécite, dans les régions atlantiques, quand il y a eu la fin des guerres entre Anglais et Français, les nations autochtones qui étaient alliées avec les Français ont conclu des traités de paix avec les garnisons britanniques. Celles des Mi'kmaq sont très populaires parce qu'il y a eu des jugements de la Cour suprême du Canada, notamment les jugements Marshall, oui, qui sont venus reconnaître le droit de pêcher dans l'Atlantique. Et il faut pas oublier au Québec le traité de Murray avec la nation Wendat qui leur a permis d'occuper une partie du territoire dans la région de Québec puis de pouvoir s'installer puis d'avoir des droits de chasse puis tout ça. Ça, c'est une catégorie. Ces traités-là sont protégés par 35. L'autre catégorie, c'est les traités qu'on appelle historiques. C'est les traités numérotés aussi qu'on les appelle. Ça a commencé.
C'est synonyme les traités historiques puis.
Numérotés, ouais, c'est parce qu'ils sont pas tous numérotés. C'est pour ça que faut faire attention. D'ailleurs, ça a commencé par des petits traités dans le sud de l'Ontario, autour de Windsor, Toronto, tout ça. Il y a des petits traités qu'on connaît moins. Il y en a une multitude. Puis par la suite, le grand premier traité, c'est le Robinson-Huron, avant la création du Canada en 1750. Et par la suite, traité 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 11. Juste à savoir que le dernier traité, c'est pas le 11, c'est la deuxième partie du traité 9 dans la portion de la baie du Tusson qui a été signé en 1935.
OK.
Fait que ça, c'est toute la portion des traités où est-ce que on échange le titre autochtone en fonction de droits qui sont écrits dans le traité. Puis, tu sais, on s'imagine des traités comme ayant ben des pages. Les traités numérotés historiques, ça a 2-3 pages.
Ah oui?
Ouais, ça dit, vous cédez vos titres. En échange, vous avez une réserve. Droit de chasse, droit de pêche, droit à l'éducation, puis une annuité.
Quand tu dis vous cédez les titres, quand une nation, mettons, va céder son titre, on parle sur un territoire. Là.
C'est le titre qu'on appelle le titre ancestral, okay, c'est-à-dire le droit dans les terres, ouais, que la nation. Puis ça, historiquement, ça sort de la proclamation royale de 1760, qui est venue dire les Autochtones ne peuvent céder leur titre qu'à la couronne. Et donc, monsieur, madame, tout le monde peut pas arriver puis dire à une nation autochtone, moi, je vais vous acheter. Seule la couronne pouvait le faire. C'était pour protéger les territoires autochtones. C'est le même principe avec les réserves. Fait que, avec le principe de 1760, on a appliqué un régime où est-ce qu'il fallait céder des terres. C'est parti de l'Ontario. Puis ça a été jusqu'aux Rocheuses. Okay. Fait que, il y a des portions du Canada qui ont il n'y a pas eu ces traités historiques et numérotés. On va sûrement y revenir. Mais ouais. Puis la troisième catégorie de traités, c'est ce qu'on appelle les traités modernes.
C'est ça.
Ça, c'est à partir de la Convention de la Baie-James au Québec en 1975. Depuis ce temps-là, il y en a eu 27 autres, en grande partie dans le nord du Canada, du nord du Labrador, le Nunavut, territoire du Nord-Ouest, Yukon. Quelques-uns en Colombie-Britannique et encore moins dans le sud de la Colombie-Britannique. Là, il y en a un là qui est Tsuwatin, puis il y a le traité Manaud dans l'île de Vancouver avec 5 Premières Nations. Fait qu'en tout, il y en a 27. Ça, c'est des gros traités modernes, 500 pages qui prennent 50 ans à négocier, puis il y a 30 chapitres environ là-dedans. Ça traite de tout. Ça donne des compensations financières, ça donne l'autonomie gouvernementale. On connaît moins ça parce qu'au Québec, on connaît la Convention de la Baie-James, mais qui date déjà de 1975. On célèbre sa 50e année cette année au mois de novembre, le 11 novembre. Mais à part ça, on connaît pas trop c'est quoi un traité moderne, qu'est-ce que ça implique. Il y a trois communautés Inuks qui apparemment qui s'approchent d'un traité, ouais. Le Mashteuiach et Sipit Natashquan. Fait qu'on va bientôt savoir à quoi ça peut ressembler en 2025 un traité moderne au Québec avec celui qui est supposé de s'en venir.
Oui, il n'y avait pas eu l'approche commune avec les Inuits il y a quelques années?
Ouais, c'est ça. Le traité Petapen, c'est l'approche, ça a débouché de l'approche commune où est-ce que le Canada, le Québec, les Inuits se sont réunis puis ont essayé de redéfinir à quoi pourrait ressembler un traité sans qu'il y ait justement de cession de droits. Fait qu'ils se sont penchés
de la part
des autochtones, okay. Comme ça se faisait avec les traités historiques.
Okay.
Fait qu'ils se sont penchés sur une formule de reconnaissance des droits dans le traité, plutôt de dire vous éteignez vos droits, vous cédez votre titre. Le traité dit on reconnaît votre titre, mais il va maintenant être défini par le traité. Fait okay. que certains vont dire c'est quoi la différence, parce que le titre, à partir du moment où ce qui est défini par le traité, que les modalités sont définies par le traité, ben il faut que ça soit négocié avec les gouvernements. Fait qu'il faut voir à ce moment-là, pratico-pratique, ça va être quoi la différence au niveau juridique entre un droit reconnu et un droit éteint, dans la mesure que, dans tous les cas, il doit être défini par le traité.
Puis, OK, fait que ça, c'est pour les traités, hein, il y a trois grandes catégories. Puis tu parlais justement des traités historiques ou numérotés. Il n'y en a pas au Québec, des traités, à ma connaissance. En tout cas, pourquoi il n'y a pas ça au Québec?
Il y a une très bonne raison. C'est que pendant longtemps, le procureur général du Québec, le gouvernement du Québec, historiquement, a dit la chose suivante au Canada. Parce que le Canada a dit, regarde, on est en train de se faire transférer les terres de Rupert par la compagnie de la Baie-du-Son en 1870. Fait que ces terres-là pour le Québec, c'est venu en deux lots. La loi 1898, qui donne tout ce qui est l'équivalent de l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Parce qu'avant ça, le Québec, c'était la Nouvelle-France.
Oui, oui, oui.
Fait que la loi 1898 vient céder les terres de Rupert au Québec. Ça, c'est Abitibi-Témiscamingue. Puis en 1912, c'est l'autre batch, tout le nord du Québec, moins le Labrador. Ah. Fait que ces deux morceaux-là ont été donnés. Puis là, le fédéral a dit, regarde, moi, j'ai donné les mêmes morceaux au Manitoba, en Ontario, puis ils ont tous été chercher des traités parce que dans les conditions de transfert de la Colombie-Britannique, de la Compagnie de la Baie-du-Son à la Couronne britannique au Canada, qui s'est faite dans ces étapes-là en 1870, c'était dit, avant de développer les territoires, assurez-vous d'avoir obtenu les cessions de terre des Autochtones puis de les avoir compensées. Fait que ça, c'est quelque chose que le monde ignore, mais c'est dans les documents constitutionnels cachés dans toutes sortes d'annexes. Fait que le Québec a dit, ben un instant, moi là, je suis pas de la commune là, je suis du droit civil.
Ouais.
Notre Code civil du Bas-Canada reconnaît pas le titre autochtone, le régime autochtone. Fait que s'il existe pas dans le droit québécois, j'ai pas besoin de signer de traité. Ça a été ça, sa position. Jusqu'à temps que la Cour suprême, des années plus tard, lui a dit, ça n'a aucun rapport.
Ouais.
C'est pas juste la common law, c'est le fait que les Autochtones étaient là avant nous autres.
Ouais.
C'est ça, la source de leurs droits.
La base, ouais,
qu'il y ait le code civil ou pas ne change rien. Non. C'est tout le même régime. Puis la common law, en matière de droits autochtones, s'applique à travers le Canada, les principes de common law de droits autochtones, parce que c'est du droit public, c'est pas du droit privé.
Non.
Fait qu'à cause de ça, le Québec, on peut dire, a pris la mauvaise décision de pas faire de traité historique, parce que s'il l'avait fait, ça y aurait pas coûté la Convention d'Abbé James, ça y aurait pas coûté la Paix des Braves, ça y aurait pas coûté le traité Petapen. Là, il a décidé de pas le faire. Fait que là, il se ramasse avec tous des traités modernes, des revendications. Ça va lui coûter bien plus cher que ce que ça aurait pu coûter. Puis encore là, je dis ça. Quand on regarde le recours qu'il y a eu dans le traité Robinson-Huron, où est-ce que l'Ontario puis le Canada viennent de payer 10 milliards de dollars à 21 Premières Nations pour indexer le 4 piastres par année qu'on n'avait pas indexé dans le traité, Puis ça, ça fait juste de couvrir le passé. Après ça, il faut tout penser à combien ça va valoir 2025 et suivant.
Exact.
Ça, c'est en train d'être négocié. Si tous les traités, puis tous les traités sont en train de revendiquer cette indexation-là, ça va coûter un bras puis des jambes à toutes les provinces puis au fédéral, dans toutes les provinces où est-ce qu'il y a eu des traités numérotés. C'est en train de se faire. On n'entend pas bien parler, mais c'est dans la machine. On négocie ça présentement un peu partout. Puis à un moment donné, ben le fédéral puis les provinces vont devoir payer ou ben non, ils vont se ramasser en cours comme dans le cas de Robinson New Run.
On va prendre une petite pause musicale très courte et puis on vous revient avec Nadir André.
On n'a même pas le temps de parler des ententes.
Ben non, je sais. De retour avec Nadir André. Tu me faisais remarquer qu'on n'a même pas parlé des ententes encore, donc
voilà.
Parlons-en.
Ben, les ententes qui sont pas des traités, par définition, un traité, c'est un engagement solennel de la couronne envers des peuples autochtones, puis comme je l'ai dit dans les trois catégories, paix d'amitié pour faire la paix, les numérotés historiques, c'est pour les questions territoriales, et les modernes, c'est les revendications globales de la politique de 1973 du gouvernement fédéral. Entre ça, il y a une panoplie d'ententes entre les couronnes et les autochtones sur toutes sortes de sujets.
Tu veux dire entre les provinces, par exemple?
Avec les provinces et les autochtones, par exemple au Québec, on a des ententes sur les ressources naturelles, sur la faune, sur la pêche, sur les hydrocarbures, sur la consultation, sur les mines, sur la foresterie. Ça, on n'entend pas parler, mais la plupart de ces ententes-là sont publiées sur le site du Secrétariat des relations avec les Premières Nations et Inuits. C'est public, ces ententes-là existent. Et dans les ententes, on dit « ce n'est pas un traité ». Ça ne porte pas atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités. Fait qu'on quand l'entente, quand il y a une ambiguïté, parce que c'est la couronne puis la nation autochtone, on le dit carrément dans l'entente que ça sera pas un traité. C'est comme ça qu'on distingue vraiment une entente d'un traité lorsqu'il y a ambiguïté. Mais à part ça, tu sais, il y a des ententes sur les services de police, il y a des ententes de financement, il y a des ententes pour créer des CPE. Il y a des ententes dans toutes sortes de sujets. Puis même au niveau fédéral, il y a des ententes également pour les fonctionnements des communautés.
Les services à la petite enfance.
Services à la petite enfance. Il y a des ententes sur l'autonomie gouvernementale qui sont pas des traités. Il y a des ententes sur l'autonomie gouvernementale en matière d'éducation qui viennent d'être signées au Québec dernièrement. Mm-hmm. Il y a des ententes sur la gestion des pêches avec les nations Mi'kmaq dans les provinces atlantiques. Donc, il y a toutes sortes d'ententes en plus des traités. Sauf que la différence, c'est que, un, ces ententes-là sont pas protégées par l'article 35. C'est donc des contrats au sens de la common law du code civil, même s'ils ont des effets juridiques, ils sont beaucoup plus limités par rapport à l'interprétation qu'on fait des traités. Par exemple, la Cour suprême a dit par rapport aux traités, surtout les vieux traités, parce que les Autochtones connaissaient pas le régime juridique, il n'y avait pas d'avocat, fait que la Cour suprême est venue dire, lorsqu'il y a une ambiguïté dans l'interprétation des traités, il faut que ça soit à l'avantage des Autochtones. Parce qu'ils n'avaient pas les connaissances. De facto, il faut l'interpréter dans l'avantage des Autochtones. Ça, c'est l'arrêt Nowagigic de 1983 qui est venu le confirmer, puis depuis, ça a été repris. Par contre, dans un traité moderne, la Cour suprême a dit le contraire. Parce qu'elle a dit, là, vous aviez des avocats, vous aviez des consultants, c'est plus récent, vous avez des gens éduqués. Là, l'interprétation, c'est l'interprétation du traité, et ça va ni à l'avantage de l'un, ni à l'avantage de l'autre. On l'interprète à sa face même.
OK. Comme si c'était un peu de nation à nation. Si
exact. Exact. Okay. C'est beaucoup plus égalitaire.
Ouais.
Parce que, tu sais, dans l'époque des traités historiques, les gens parlaient pas la langue, ils la lisaient pas.
Ouais.
D'ailleurs, un petit fait cocasse. Sachez que des 11 traités, incluant Robinson New Run, ils sont partis imprimés d'Ottawa. Les commissaires ont fait leur tour de portage puis de canaux pour faire signer tous les peuples autochtones. Négocier avec chaque communauté, il n'y a jamais eu un amendement de ces traités-là. Ils ont été signés tels quels. Fait que là, imaginez la capacité de négociation. Fait que là, les commissaires, les Autochtones disent, on veut ça. Ouais, vous allez avoir ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que maintenant, lorsqu'on va devant les tribunaux pour interpréter un traité, on fait pas juste de regarder ce qui est écrit. On regarde l'intention des parties, puis qu'est-ce qui a été dit par les ancêtres autochtones de leur côté.
L'esprit puis la lettre.
Exactement. Fait que c'est pour ça que il y a tout un processus lorsqu'on va devant les tribunaux pour faire interpréter le traité, puis de le faire appliquer.
Mm. Parlant justement là des différentes négociations à la fois avec le fédéral puis le provincial, là dans la guerre commerciale actuelle, il y a le fédéral notamment, mais aussi d'autres provinces qui là de plus en plus essaye là d'accélérer l'adoption là de projets de loi justement qui vont toucher au développement de ressources naturelles énergétiques, des projets d'infrastructure. En juin justement sur le site de Radio-Canada dans l'espace autochtone, tu as signé une chronique intitulée Colonisation 2.0. Le titre a le mérite d'être clair, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur en quoi ça représente un risque, ces projets de loi-là, pour les peuples autochtones?
Ben, regardez, l'analogie que j'aime utiliser le plus, c'est que historiquement, justement, dans le temps des traités numérotés, il y avait un projet commun, c'était de construire un chemin de fer de Montréal à Vancouver. C'est ça le projet. Fait que le chemin de fer se faisait construire, on signait les traités. Quand vous regardez comment que le suit les traités de 1 à 11, là, ça suit pas mal le chemin du chemin de fer, puis après ça, on a fini ça dans le nord. Fait que, au lieu d'intégrer à l'époque les Autochtones dans le développement, les engager pour le faire construire le chemin de fer, les faire bénéficier des retombées puis tout le kit, on les a mis dans des réserves, on les a torsés de là. Puis ils ont jamais participé aux décisions, ils ont pas participé dans les profits, puis ils se sont appauvris au fur et à mesure que la société canadienne, elle, grandissait. Les agriculteurs sont arrivés tout autour du chemin de fer, par la suite des infrastructures, des routes, des villes, puis tout ce qui en a suivi. Puis aujourd'hui, on est dans le G7. Fait que, pourquoi j'ai appelé ça colonisation 2.0? C'est que tout le cheminement de réconciliation qui a été amorcé depuis environ une quinzaine d'années a dû... Les provinces, les territoires, puis le fédéral ont dû revoir leur réglementation d'évaluation environnementale puis d'adoption des décrets puis des autorisations pour tenir compte des délais de consultation avec les Autochtones. Surtout qu'on penche de plus en plus vers la notion du consentement libre et éclairé. Puis pour ça, pour arriver au résultat d'un consentement chez les Autochtones, ben il faut le convaincre que le projet est bon pour lui et sa communauté, qu'il y ait des retombées, des emplois, des compensations, des mesures réparatrices, des consultations de toutes sortes. Ça, pour que ça puisse se faire, il faut donner du temps. Il n'y a pas d'autre. Du temps et des ressources pour que les gens puissent, les communautés puissent avoir des consultants, des avocats, des biologistes, pour venir leur dire « ça, c'est correct, ça, faites attention, ça va détruire ton poisson, puis tout le kit ». Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de revoir cette logique temporelle, puis dire « hey, moi, je serais capable de couper la moitié là-dedans, puis faire approuver les projets en 3 mois au lieu de 6 mois ». Mais pour tout ça, là, ça vient vraiment porter atteinte à la démarche autochtone pour obtenir leur consentement, puis pour qu'ils puissent se faire consulter adéquatement. Fait qu'en l'absence, en réduisant ça, on revient en arrière.
Ah, c'est ça.
C'est pour ça que j'ai appelé ça colonisation 2.0. On revient aux pratiques où est-ce que, gars, l'Autochtone, reste dans ton coin, nous autres, on développe. On refait un chemin de fer. Carrément, l'analogie, on refait le chemin de fer. Mais à un tout autre niveau. Parce que là, on est dans la crise climatique, on est dans la guerre des tarifs, on est dans toutes les crises qui nous... Les Autochtones continuent à être victimes de tout ça. Regarde, qui souffle le plus des feux de forêt en ce moment? Qui se fait évacuer, là? C'est les communautés autochtones, non? C'est pas Winnipeg qu'on évacue,
là. Des camps de chasse détruits, des territoires de chasse
complètement, détruits, hein? C'est ça. Puis ça va reprendre des années puis des années avant que les gens puissent retourner dans le bois. Puis tu sais, c'est tragique ce qui est en train d'arriver, puis on n'en parle presque pas. Parce que ce qui est important, c'est de parler des infrastructures, des pertes forestières, des camps miniers évacuer les chalets de monsieur, madame, tout le monde. Fait que on parle pas que les communautés autochtones sont ceux qui souffrent le plus des changements climatiques parce que ils sont dans le territoire.
Ouais, c'est de même partout dans le monde d'ailleurs.
Ben oui.
Puis c'est les gardiens du territoire souvent, c'est ça. Là. À la lumière de ce qu'on vient de dire, comment tu vois l'avenir quant aux relations autochtones, justement, gouvernement, entre les différents paliers? Ça devrait être quoi, là, en deux minutes, mettons, là, les fondements de ces relations-là?
Ben, en deux minutes, je pense que l'idée que les terres et les ressources naturelles appartiennent des provinces, il faut revoir ça.
Mm-hmm.
Puis là, c'est plus aux provinces, c'est aux MRC, c'est aux municipalités. Tu sais, je veux dire, tu vas en Gaspésie, la MRC va dire, hey, c'est chez nous, là. La protection du caribou, là, non. C'est, ouais. C'est nos forêts, c'est nos employés, c'est nos scieries qu'on met en péril. Fait que cette espèce de notion de colonisateur, que le territoire appartient au gouvernement puis aux municipalités, faut revoir ça. Parce que au Québec, à part la convention de la Baie James, il n'a pas de traité, puis les nations autochtones ont encore un titre autochtone.
Mm-hmm.
Fait qu'il faut revoir la notion de partage des ressources naturelles, parce que le fédéral peut pas continuer à payer là pour les autochtones. Tu sais, on le voit là, il s'en va dans les armes, il s'en va dans d'autres défis. Je veux dire, ça devient improbable qu'il va continuer à augmenter les budgets pour faire survivre les nations autochtones. Fait que les provinces, faut qu'ils embarquent là-dedans. Puis pour ça, il faut regarder un partage plus équitable des redevances avec les ressources naturelles, les infrastructures, Hydro-Québec et compagnie, puis que les provinces contribuent à ce que les Autochtones puissent se développer, co-gestion des terres. On peut gérer ça ensemble, les territoires. Il y a des notions de savoir traditionnel que les fonctionnaires des ressources naturelles puis de l'environnement peuvent s'enrichir avec ça. Puis être éduqué. Il y a plein de façons de s'entendre puis coexister, mais je pense qu'il faut d'abord et avant tout s'asseoir et négocier des ententes qui ont du bon sens dans ces domaines-là, ouais. Parce que sinon, les choses vont juste empirer, c'est ouais. sûr.
Hey, ben merci Nadir, on aurait pu faire une émission complète avec toi. C'est sûr qu'on va te réinviter à l'automne si tu acceptes bien sûr de revenir à l'émission.
Certainement, j'ai trouvé du stationnement autour, donc tout est possible.
Merci encore.
Ça fait plaisir.
See you.
Toujours aux Apatrides Anonymes, on vient d'entendre le groupe projet Ghost Keeper, la pièce Astum Ota de l'album Sipayak Joy, sorti en 2024. C'est un groupe de Calgary avec comme leader Shane Ghostkeeper et Sarah Hull. Ça existe depuis 2008, travaille avec différents musiciens. C'est un mélange de pop-rock expérimental, un peu de musique traditionnelle autochtone sur certaines pièces. Donc voilà, c'était la première pièce de notre émission après l'excellente entrevue avec Nadir André qu'on vient d'entendre à l'instant.
Je suis sûr que tout le monde a appris plein de choses.
Plein de choses, puis c'était très bien expliqué surtout. Donc, on va le réinviter, comme tu disais, Marie-Ève, dans les prochains mois. Je vais vous parler, je trouve ça important de parler de certains extrémistes de droite, certains groupes d'extrême droite, même si c'est pas des mouvements de masse, mais quand même, c'est des gens qui font des choses assez à la fois surprenante, à la fois déplorable. Récemment, l'Ottavien Patrick Gordon MacDonald, qui a été reconnu coupable de terrorisme, passera assurément un long moment derrière les barreaux. La couronne suggère 14 ans, tandis que la défense propose de 6 à 8 ans de peine. Les procureurs du ministère public ont justifié leur demande en parlant des crimes ignobles que l'accusé a commis sous le pseudonyme de Dark Foreigner. En avril, le juge a reconnu MacDonald coupable de 3 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Participation à une activité terroriste, faciliter une activité, avoir commis une infraction pour le compte d'un groupe dit terroriste, notamment la division Atomwaffen, aujourd'hui dissoute, et pour le compte du néo-nazi James Mason. En 2018 et 2019, MacDonald a contribué à la création et à la diffusion de 3 vidéos racistes et haineuses visant à recruter des adeptes à quelques endroits, notamment à Ottawa et à Belleville en Ontario, et ainsi qu'à Saint-Ferdinand au Québec, il y avait une descente de la GRC à l'époque. Une des vidéos montre des personnes portant des masques se déplaçant dans une zone boisée en tirant avec des armes à feu. À la fin de la dite vidéo, on voit les drapeaux des États-Unis, d'Israël et de l'Union européenne être incendiés. Entrecoupé d'images de personnes armées prenant d'assaut un bâtiment en formation tactique, la vidéo qui comprend une insulte à l'encontre des Juifs se termine par un texte où il est écrit en anglais « Restez à l'affût, tireur ». Donc, c'est un peu là-dessus que ça a été basé, là, les condamnations et le procès et la condamnation. Mais c'est un groupe aussi, j'ai pas réussi à retrouver les autres membres s'ils ont été poursuivis, mais je vais regarder ça, je vous tiendrai au courant éventuellement, parce que ça a été lui vraiment qu'on a vu dans les médias depuis quelques temps. Fait que juste pour faire le lien là-dessus, je vous suggère un texte qui est sur le site montrealantifasciste.info qui s'appelle « Quelques bases sur le fascisme et comment y faire face ». Je vous résume en deux lignes là, comment il présente le document. Nous assistons au génocide le plus documenté de l'histoire en Palestine et à la consolidation d'un régime fasciste aux États-Unis. Nous sommes beaucoup à nous demander quoi faire. Voici un cadre conceptuel pour comprendre ce qui se passe et des pistes d'action, des moyens d'action. Donc, sur le site de Montréal Antifasciste pour mieux s'armer contre les néo-nazis et consorts. Simon, on s'en va complètement ailleurs.
Complètement ailleurs, une autre région, des sujets complètement différents. Donc, pas de nazillon ici, donc je vais surtout me concentrer sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est, oui. Mais je vais commencer encore plus à l'Ouest et même en Atlantique, dans les Canaries, dont on a un peu moins parlé dans les dernières semaines, mais les traversées se poursuivent à un rythme soutenu avec leur naufrage et leur sauvetage parfois. Question de se mettre à jour, quelques développements récents, les berges du Sénégal et de la Mauritanie demeurent des lieux d'embarquement traditionnels, mais les contrôles y ont été considérablement renforcés dernièrement avec l'appui de la garde civile et de la police nationale espagnole,
oui.
Ce qui a provoqué une baisse assez marquée des départs, donc des arrivées clandestines aux îles Canaries, environ 40% de diminution. Mais en général, quand on contrôle davantage une région, on assiste à assez court terme un déplacement des opérations, déplacement géographique. Donc, cette baisse devrait être compensée bientôt. C'est ce qu'on constate actuellement, une baisse des arrivées aux îles Canaries. Donc, plutôt que d'embarquer du Sénégal ou de la Mauritanie, les migrants utilisent de plus en plus les services des passeurs à partir de Guinée. Les deux Guinées qui sont sous le Sénégal, donc immédiatement au sud du Sénégal. Mais sachant que les départs pouvait se faire du nord ou du centre de la côte sénégalaise, ça veut dire qu'on vient d'ajouter quelques centaines de kilomètres à une route maritime déjà très dangereuse, avec pour 2024 seulement une estimation d'environ 10 000 personnes mortes et disparues.
Okay.
La distance totale entre les lieux de départ en Guinée et l'archipel des Canaries, c'est 1 800 à 2 000 kilomètres.
Quand même, hein?
Sur des embarcations de fortune surchargées, surpeuplées, sur un océan qui est pas mal plus capricieux que la mer Méditerranée, qui elle-même peut être assez difficile. On est encore au début de l'été, la saison la plus importante de traversée clandestine. Alors, c'est évident que ici, aux Apatrides, on va observer le phénomène et vous tenir au courant. Dernière nouvelle de l'Afrique de l'Ouest, avant de passer à l'Est, il y a le bureau du HCR de la Côte d'Ivoire qui dessert pas juste la Côte d'Ivoire, mais aussi le Ghana, le Togo et le Bénin. Et ses activités sont actuellement menacées en raison de problèmes financiers. T'en parlais tantôt, je vais parler un peu de cette région spécifique.
Oui.
Le bureau vient en aide à 184 000 demandeurs d'asile, autant au niveau de l'accompagnement administratif, les services de base, aide alimentaire, aide au logement. Le bureau estimait ses besoins financiers pour l'année courante à 57 millions de dollars, mais n'a reçu que 16 % de cette somme. Le financement du HCR, juste pour donner un ordre de grandeur, il provenait à la hauteur de 40 % des États-Unis.
Ben oui.
Peux-tu donner 45 % globalement?
L'ensemble de l'aide internationale.
Ce soit, ouais. Pour ce bureau-là spécifiquement, c'est à peu près le même ordre de grandeur.
Ouais.
Là, je parlais du bureau régional basé en Côte d'Ivoire, mais les exemples commencent à sortir dans les médias spécialisés. On apprenait la semaine dernière qu'au centre du Niger, à Agadez, le HCR a déjà stoppé toute forme d'aide alimentaire dont dépendent des dizaines de milliers de personnes dans la région, comme on a pu le constater aussi au Soudan et en Haïti, et probablement partout où c'est le HCR qui coordonne l'aide humanitaire. L'aide va continuer à fonctionner là où il reste des fonds, mais ces fonds éventuellement vont être complètement épuisés.
Oui.
Je rappelle que les principaux bailleurs de fonds, ce sont, tout en parlant aussi tantôt, ce sont les États industrialisés qui doivent en grande partie leur richesse à la main-d'œuvre et aux ressources du Sud, et que ce financement, il a été réduit, voire éliminé par certaines capitales occidentales, dont Washington, évidemment, et partout où Maître André Nadir en parlait tantôt, partout où il y a de la pression pour faire exploser les dépenses militaires, comme ici Ottawa.
Mm-hmm.
J'en profite pour faire un petit RIP, rest in peace. La semaine dernière, on apprenait qu'après 60 ans d'existence, c'était la fin officielle de USAID. USAID n'existe plus, carrément, donc l'Agence fédérale américaine d'aide au développement international. Et selon une étude récente, ça pourrait provoquer la mort d'environ 14 millions de personnes d'ici 5 ans, surtout dans les pays où interviennent des agences de l'ONU et des agences dont le financement est versé par les Nations unies. Maintenant, quelques brèves en vrac, plus au centre et à l'est de l'Afrique, un article de Pivot qui a attiré notre attention. Nous n'avons nulle part où aller être trans en Afrique de l'Est. Donc, j'ose à peine imaginer.
Ouais.
En gros, il s'agit du témoignage de Molly, femme trans ougandaise, qui, après que sa famille le dénonçait à la police, elle va connaître un périple assez incroyable sur plusieurs années, d'abord au Kenya, qui semble, de prime abord, assez accueillant, mais d'où elle sera finalement envoyée de force vers le Soudan du Sud, dans le cadre d'expulsions de masse de personnes LGBTQI+.
De différents pays.
Qui se trouvait au Kenya.
Qui se trouve au Kenya. Ben, oui. Venir de n'importe quel
n'importe quelle personne identifiée selon la...
Soudan du Sud qui est en guerre perpétuelle, à peu près, en plus. Là.
Ouais. Exactement.
Ouais.
Donc, le récit de Molly est détaillé et extrêmement dur. Je vais vous lire une citation de Lawrence, un de ses camarades. Les homophobes nous tranchent comme du pain. Le gouvernement ne veut pas de personnes LGBT sous prétexte qu'ils corrompent les enfants et causent les changements climatiques.
Ah, bon, j'ai pas entendu ça. OK.
Il conclut en disant que c'est ridicule et je suis d'accord. En effet, c'est grotesque même. On déplore aussi dans ce témoignage le fait qu'en abaissant leur seuil d'immigration, le Canada et les États-Unis ferment encore plus la porte aux réfugiés trans d'Afrique et de partout dans le monde. Donc, très peu d'espoir actuellement pour cette communauté. Actuellement, au Soudan du Sud, tout est en train de fermer en raison du contexte sécuritaire, les ambassades, les bureaux des ONG, même les camps de réfugiés où se trouvent nos deux comparses. Donc, on risque peut-être de perdre leurs traces à assez court terme. Donc, à lire ce texte déchirant d'Ophélie dénommée Marchand dans Pivot, « Nous n'avons nulle part où aller être trans en Afrique de l'Est ». Deux courtes nouvelles à savoir plus politiques pour terminer. On revient au Kenya, où la répression très violente, il y a deux semaines de grandes manifestations qui a fait au moins 19 morts et 500 blessés. Ça, c'est selon les chiffres les plus récents, ça pourrait le bilan pourrait augmenter.
Ouais.
Ironiquement, c'est des manifestations organisées en hommage aux victimes d'un vaste mouvement populaire qui avait eu lieu en 2024 et qui lui aussi avait été très violemment réprimé. Des centaines de morts à ce moment-là. Plusieurs enquêtes sont ouvertes, mais le climat reste extrêmement tendu au Kenya, surtout dans la capitale. Et on termine sur une note d'apparence presque joyeuse avec la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC.
Ben oui, hein?
Ça s'est passé dans le bureau ovale présence triomphale du... Je te laisse le désigner, là.
Le mort-vivant?
Le mort-vivant, mais orange fluo.
Ouais.
Qui, évidemment, en supervisant cet accord, n'a pas manqué d'y inclure des clauses d'exclusivité sur d'importants droits miniers.
Ben oui.
Sur les minéraux critiques et les terres rares de la région, comme il avait essayé de le faire en Iran et en Ukraine. Évidemment, le zombie orange fanfaronnait, c'est ça?
Oui, c'est bon.
Mais les accords de cessez-le-feu, ils ne sont pas toujours respectés. Parfois, ils le sont, mais partiellement ou temporairement. Et dans le cas qui nous intéresse ici, parmi les principaux acteurs impliqués, il y a les groupes rebelles qui contrôlent une partie du territoire de part et d'autre de la frontière Congo-Rwanda. Mais ils ne faisaient pas partie de la discussion. Donc, on verra bien. Alors qu'en plus, il y a un rapport de l'ONU qui nous apprenait il y a quelques jours que le soutien financier et logistique du gouvernement rwandais au groupe M23, le principal groupe rebelle qui se trouve dans l'est du Congo. Ce soutien aurait été beaucoup plus important que ce qu'on en savait, et ça, c'est le genre d'information qui peut faire voler en éclats toute forme d'accord de cesser le feu et relancer les violences dans la région.
Ben, c'était pas dans l'accord, évidemment, ces enjeux-là, fait que...
Ben non, ça vient, disons, un peu changer le préambule, les rapports de force, c'est ça.
Le préambule et la conclusion de l'accord.
Voilà.
Oui, un accord dans le bureau aval, c'est toujours champion, c'est toujours winner.
Oui. C'est force de loi.
Donc, à suivre. Merci beaucoup, Simon, pour les actualités africaines. On écoute quelques notes de musique et on poursuit après cette pause musicale. On continue dans notre couverture de l'actualité internationale, nationale et locale. On va rester au niveau plus national, au niveau canadien. Je l'ai annoncé en introduction de l'émission, les ondes tampons, les ondes bulles, les manifs bulles. Donc, ça commence à se faire de plus en plus. On peut dire en premier lieu que c'est pas une nouvelle idée. Là, il y a déjà eu des règlements ou des lois au Canada par rapport aux hôpitaux, entre autres, tout ça. Mais là, c'est vraiment, ça se généralise, particulièrement en Ontario. Donc, l'Association canadienne des libertés civiles conteste la constitutionnalité de règlement municipal qui limite les manifestations à Vaughan, en Ontario. L'été dernier, la ville a interdit les manifestations à moins de 100 mètres des lieux de culte, des hôpitaux, des écoles, des garderies et d'autres infrastructures dites vulnérables. L'issue de la contestation de l'association pourrait faire jurisprudence puisque d'autres villes ontariennes ont adopté des règlements similaires. L'ACLC soutient que ces zones tampons imposées par Vaughan sont une restriction déraisonnable au droit de manifester pacifiquement garanti par la Charte canadienne. Vaughan a adopté son règlement en juin 2024 après une série de manifestations devant une synagogue de Thornhill, un des quartiers de Vaughan. Des villes comme Ottawa, Brampton et Toronto, qui étaient aussi le théâtre des nombreuses manifestations pro-palestiniennes, lui ont emboîté le pas dans les mois suivants avec des mesures similaires. Le règlement de Vaughan définit une manifestation de nuisance comme toute manifestation qui pourrait conduire une personne raisonnable à se sentir intimidée, et cela peu importe l'intention des manifestants.
Ah.
C'est très large, hein?
C'est préventif.
Manifestation de nuisance, comme si une manifestation c'était là pour plaire aux gens, évidemment, qui sont autour, qui sont visés. Donc, l'association dit qu'elle cible ce règlement parce que ce fut le premier à être adopté, mais aussi parce que c'est celui qui contient les restrictions et les amendes les plus importantes. Ça va jusqu'à 100 000 $. C'est vraiment délirant. Pendant ce temps-là, au fédéral, les vaillants ministres de Carney, dont celui de la justice, Sean Fraser, dit que le gouvernement compte aller de l'avant dans ses intentions de protéger l'accès aux lieux de culte, aux écoles et aux centres communautaires. Au cours de la récente campagne électorale fédérale, les libéraux avaient promis de présenter un projet de loi visant aussi à criminaliser le fait d'intimider ou de menacer de façon intentionnelle et délibérée des personnes assistant à des offices dans des lieux précis. Des défenseurs des droits de la personne rejettent toute mesure qui pourrait empiéter sur la liberté d'expression et celle de réunion. Ils signalent qu'il existe déjà des articles de loi qui visent à réprimer de tels comportements. Puis ça, on le sait. James Stark, directeur du Centre pour la liberté d'expression de l'Université métropolitaine de Toronto, met en doute la pertinence d'ajouter des articles au code criminel. Il laisse entendre que certains politiciens fédéraux, provinciaux, municipaux proposent uniquement des sanctions afin de pouvoir prétendre qu'ils agissent dans ce dossier. Il rappelle qu'il existe depuis longtemps des lois contre les méfaits, la nuisance, les perturbations d'une célébration religieuse. En terminant là-dessus, nos amis de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, que j'aime citer, ont sorti un nouveau rapport qui lance l'alerte sur les lois municipales de zones à bulles ciblant les manifestations pro-palestiniennes. Le rapport est sorti en mai. Il s'appelle « Loi sur les zones à bulles, protéger les communautés ou réprimer la dissidence pro-palestinienne et autres ». Donc, c'est disponible sur leur site de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient pour un peu plus analyser pourquoi, comment ça s'appliquerait. Puis, on peut regarder parce qu'au Québec, la CAQ avait déjà essayé de faire un règlement pour interdire les manifs près des hôpitaux, entre autres, et des écoles. Fait que ça risque de venir dans la prochaine année préélectorale, Simon.
Oui, ben faudrait aussi s'assurer que les synagogues on vende pas ce soit pas des ventes aux enchères de terrain sur des terres volées en Cisjordanie là.
Exactement, hein,
Sinon c'est plus juste des lieux de culte.
C'est exactement ça. On va y aller en musique avec notre deuxième pièce de l'émission. C'est la pièce qui est dans le palmarès choc, palmarès local en 25e position. Le groupe s'appelle Béton Armé, la pièce s'appelle Lève-toi. C'est de l'album Renaissance sorti en juin dernier, là, il y a quelques semaines. C'est un groupe très prolifique. Quatuor montréalais qui existe depuis 2018, qui fait de la oi franco. En tournée européenne actuellement, beaucoup de concerts à Montréal dans la dernière année. Donc, Béton Armé, lève-toi! béton armé avec la pièce Lève-toi dans le palmarès choc. Donc, on va poursuivre avec l'Europe. Je vais parler de l'Union européenne un peu. Simon va nous parler ensuite de la France.
Eh oui, Paris, Nord, Pas-de-Calais, etc.
Paris, que bon. Donc, le Danemark, qui a pris le 1er juillet la présidence du Conseil de l'UE pour une durée de 6 mois, entend profiter de l'occasion pour pousser ses pions et durcir encore le traitement des demandeurs d'asile et des recours en justice. La première ministre danoise Mette Frederiksen a annoncé sa couleur et entend s'activer sur 2 fronts, l'externalisation des demandes d'asile et la restriction des portées des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Rien de moins. Le Danemark, où la part de personnes d'origine étrangère est passée de 3 à 16% entre 1985 et 2025, en 30 ans, justifie sa volonté de limiter l'accueil des migrants par le maintien d'un État-providence généreux. Vous-tu quelque chose, ça? En parallèle, son besoin de main-d'œuvre étrangère a bondi, le nombre de permis de travail accordés doublant en moins de 10 ans, mais ceux-ci étant évidemment révocables assez facilement. Chambre de l'accueil de 0 réfugiés, le Danemark a accepté 860 demandes en 2024, soit 13 fois moins qu'en 2015, il y a 10 ans. Aussi, le Danemark s'est associé à l'Italie et 7 autres pays pour demander une réinterprétation de la Convention européenne des droits de l'homme sur les migrations, arguant qu'elle protégeait parfois les mauvaises personnes.
Oh.
Le point de crispation porte notamment sur des arrêts rendus par la Cour européenne, sur les expulsions pratiquées par certains États membres. Plusieurs d'entre eux ont été condamnés ces dernières années pour avoir expulsé un étranger vers un pays où il risque un traitement inhumain et dégradant. Certains pays européens sont par ailleurs en attente d'un jugement de la Cour. C'est le cas de la Pologne, de la Lettonie et de la Lituanie qui ont comparu en mars pour refoulement illégaux collectif de migrants à leurs frontières.
Ouais, les fameux pushback.
Exactement. Sinon, ben du 1er au 9 janvier, on va parler des chiffres qui sont en diminution malgré les volontés très dures de renforcer les politiques anti-immigration. Du 1er janvier au 9 juin 2025, un peu plus de 54 000 personnes ont rejoint l'Europe par voie maritime, bassin méditerranéen et océan Atlantique. On va recouper un peu ce qu'on disait tantôt, ce que tu disais tantôt, Simon. Mm-hmm. Donc, des chiffres du HCR. Le chiffre est inférieur à l'année précédente. Sur la même période, ils étaient alors de 65 000. Sans surprise, la route méditerranéenne reste la plus empruntée par les migrants, côté central, côté oriental. En tout, plus de 39 000 migrants ont traversé la Grande Bleue en un peu moins de 6 mois, donc de janvier à juin. La route des Canaries arrive en 3e position avec plus de 11 300. C'est là qu'on se rejoint au niveau des données.
Ouais, légère diminution, comme on disait, mais qui pourrait repartir à la hausse.
Dans le même temps, seulement 2 500 migrants ont atteint l'UE par la voie terrestre, soit par la voie turco-grecque ou par Chypre. Ce chiffre... Les baisses les plus importantes ont été enregistrées sur la route terrestre des Balkans, moins 56%, mais aussi sur la route atlantique ouest-africaine, moins 35%, et en Méditerranée orientale, donc moins 30%. Cette diminution des entrées sur le sol européen peut s'expliquer par les multiples accords passés entre Bruxelles et des pays tiers ces dernières années dans le but d'enrayer toujours plus les arrivées. Des accords qui, malgré leur caractère controversé, font encore des émules. Le gouvernement grec a annoncé la semaine dernière qu'il souhaitait négocier un accord avec la Libye pour limiter l'augmentation des départs de migrants depuis Tobrouk, à l'est de la Libye, vers la Crète. C'est précis, hein? Donc, voilà pour les nouvelles européennes. Simon, en France...
Oui, signer des accords avec la Libye, c'est toujours un petit peu problématique,
c'est toujours une bonne idée,
disons.
Hein? Ben oui, hein?
Donc, France, les Guinéens, il y a un rapport de la Guinée-Conakry, forment maintenant le plus important bassin de personnes africaines qui demandent l'asile en France.
Oui.
Des demandes qui sont en progression constante depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Un peu plus de 11 000 demandes en 2024 devant la RDC et la Côte d'Ivoire. Seuls 2 pays non-africains, évidemment, devancent la Guinée dans le nombre de demandes d'asile en France, c'est l'Afghanistan en premier, suivi de l'Ukraine. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui nous a fourni ces chiffres-là, constate aussi une hausse marquée des demandes faites par des femmes guinéennes qui sont très souvent victimes de violences sexuelles. On va maintenant jeter notre regard sur le nord de la France, sur le littoral de la Manche, où se trouvent beaucoup de camps de demandeurs d'asile qui attendent de traverser vers le Royaume-Uni. On se trouve proche de Dunkerque. 2 fusillades distinctes se sont produites dans le campement informel de Loon Plage les 14 et 15 juin. 6 blessés et 3 morts. On ne connaît pas encore les causes exactes ni l'identité des migrants qui ont été arrêtés, mais ça pose toutes sortes de questions sur la sécurité dans les camps de fortune. Entre-temps, les centaines de migrants qui dorment dans ces camps, ils sont terrorisés et, mis à part quelques bénévoles, l'État n'offre aucune aide psychologique ou aucune mesure de protection supplémentaire. Beaucoup d'associations nous donnent des indices sur ce qui peut provoquer ces violences. Un des facteurs mis en cause, ce serait des règlements de compte entre réseaux de passeurs qui se battent pour obtenir le monopole de ce commerce-là. Mais les associations constatent aussi que l'augmentation des tensions, qui sont de plus en plus fortes entre les migrants eux-mêmes et entre les migrants et la population locale, bref, ces pics de tension suivent pratiquement toujours les démantèlements des camps par les autorités locales, alors qu'on arrache aux migrants leurs biens, leurs quelques biens de subsistance et qu'on rétrécit davantage l'espace où on les tolère. Et au-delà du matériel confisqué et des migrants qui finissent par s'accuser mutuellement d'être des voleurs, il y a le simple stress provoqué par ces démantèlements qui est un facteur en soi qui exacerbe aussi les tensions, évidemment, et ultimement la violence.
Exact.
On se déplace à Calais, la ville voisine, où une décision de justice était attendue par trois associations, Calais Food Collective, Salam et Solidarité Internationale, qui demandaient à la municipalité d'en faire un peu plus pour assurer un environnement minimalement salubre. Ben à ordures, bac roulant, sac poubelle, sanitaire, point d'eau et une collecte de déchets plus fréquente.
Ouais.
Ce qui leur a été refusé, prétextant qu'il y a déjà certaines mesures qui sont prises.
Hey.
Mais ce serait largement insuffisant pour assurer un milieu sans risque sanitaire pour les migrants, risques qui sont actuellement accentués par les fortes vagues de chaleur qui s'acharnent sur l'Europe et qui, jumelées à l'insalubrité, augmentent considérablement le risque de propagation de maladies, de prolifération de la vermine et des moustiques transmetteurs de maladies. Mais la justice du Pas-de-Calais juge que la situation actuelle est adéquate. Par contre, si on arrive à démontrer que cette insalubrité chronique dans les camps pose un danger pour la santé publique en général dans la région, à ce moment-là, ça risque de bouger peut-être un peu plus.
Un bon prétexte hein, pour ouais. faire bouger les choses. Hein.
Mais entre-temps, non.
Ouais, c'est ça.
On descend un peu plus vers le sud à Paris, où début juin, un camp de 200 tentes dans le nord de la ville a été démantelé. Un camp habité surtout par des mineurs isolés d'Afrique subsaharienne. Plusieurs d'entre eux sont en processus pour faire reconnaître leur minorité. Ça s'est produit de la manière barbare habituelle, très très tôt le matin, alors que à peu près tout le monde est en train de dormir encore. On proposait deux alternatives aux jeunes migrants, soit monter dans des autobus qui les amèneraient en région, à Bordeaux dans ce cas-ci,
okay.
ce qui est quand même très loin de Paris.
Oui, pas mal.
Et complètement absurde. Beaucoup d'entre eux sont en attente d'audience à Paris et souvent on leur a remis un permis de travail temporaire qui est lié à un employeur parisien.
Ben oui.
L'autre alternative, on proposait aussi quelques places d'hébergement à Paris, hébergement temporaire, mais dans des établissements spécialisés pour des personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie, ce qui est plutôt inapproprié pour loger des mineurs.
Oui, c'est spécial. On dirait la ministre Duranceau ici, là. Oui, c'est sûr. Ouais.
Oui, mon Dieu. Ben, Marie-Antoinette vient de Paris, donc toujours des liens. Hein. De toute façon, la plupart des migrants ont refusé les deux offres et à la grande consternation des ONG qui leur apportent de l'aide, les jeunes se sont retrouvés dispersés dans la ville.
Ouais.
Donc maintenant, beaucoup plus difficile à localiser et à la merci de toutes sortes de catégories d'individus ou de réseaux louches qui souhaiteraient potentiellement abuser d'elles de toutes sortes de façons. Dernière brève française, opération peut-être inspirée par les rafles du ICE aux États-Unis. Une vaste campagne anti-migrants dans les transports ferroviaires partout en France, dans les gares, dans les trains, autant les trains régionaux que sur les grandes liaisons interurbaines. Opération spectacle orchestrée par l'ineffable ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ouais. Plus de 4000 agents mobilisés pendant 48 heures les 18 et 19 juin pour au final interpeller 691 personnes, en détenir une trentaine. 200 ont reçu une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Une centaine se sont vus immédiatement reconduits à la frontière, ce qui est d'une légalité pas nécessairement démontrée.
Mm-hmm.
Le gouvernement Macron marche vraiment sur une ligne très mince là-dessus. Tout ça pour finalement relâcher la très grande majorité des quelques 700 personnes interpellées qui auront été contrôlées au faciès sans autre motif sérieux.
C'est la NAS, comme ils disent. Hein?
C'est quoi la NAS?
Ben, c'est comme dans une manif quand t'arrêtes tout le monde, puis après ça, tu vois qui tu gardes.
Ben,
c'est pas tout le monde, c'est vraiment du profilage.
Là. Oui, mais...
Non, c'est surtout un show de boucan.
Ben oui,
c'est exactement...
C'est la pêche, là, la pêche. Là.
C'est ouais, ça. C'est
voilà. Donc, je vais laisser le dernier mot, non pas oui. à Marie-Ève, mais au mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples qui s'est exprimé par communiqué. La citation est la suivante. « Ces opérations s'apparentent à des rafles. Nous déplorons une escalade nauséabonde visant des travailleurs et travailleuses qui se rendent sur leur lieu de travail et qui, aujourd'hui et demain, un peu plus que d'habitude, le feront la peur au ventre. »
C'est très clair. Oh oui, c'est vraiment des techniques de fascisme.
C'est de l'intimidation.
Oh oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Simon, pour ces nouvelles françaises. On parlera peut-être la semaine prochaine, dans deux semaines, de l'Italie, de l'Allemagne. Il y a beaucoup de... beaucoup de sujets intéressants en Europe. C'est assez, ça va très très vite ces temps-ci. Donc, quelques notes de musique et on revient pour la conclusion. Avant de vous quitter avec une dernière pièce, quelques dates pour le très beau festival que nous avons beaucoup, le cinéma sous les étoiles dans la région de Montréal principalement. Actuellement, avec les intempéries qu'il y a eu, il y a des films qui ont pas pu être projetés, donc il y a des reprises. Entre autres, ce lundi 14 juillet à la place Shamrock, c'est Diaries from Lebanon qui devait avoir lieu il y a quelques semaines, dont Simon nous avait parlé. Sinon, le mardi 22 juillet, c'est Ernest Cole, photographe, dont tu nous avais parlé aussi, qui est repris au Parc du Pélican.
Ça a l'air vraiment intéressant.
Vraiment intéressant. Sinon, ça c'est pas une reprise, c'est From Ground Zero de 22 cinéastes palestiniens. Un recueil de récits poignants de ces 22 cinéastes vivant le génocide qui filment leur quotidien à Gaza en pleine guerre. Ça date de 2024, donc au Parc Laurier le 23 juillet. Sinon, il y a Dahomey au Théâtre de Verdure le 24 juillet. Novembre 2021, 26 trésors royaux du Dahomey s'apprêtent à quitter Paris pour être rapatriés vers leur terre d'origine devenue le Bénin. Avec plusieurs milliers d'autres, des œuvres furent pillées lors de l'invasion des troupes coloniales françaises en 1892. Donc, Dahomey, ça vous tente. Et une autre reprise, c'est le film Union qui devait avoir lieu cette semaine lundi au Parc des Faubourgs, qui est repris donc le 4 août, donc à 20h30 au même endroit au Parc des Faubourgs. Donc, voilà pour la suite de Cinéma sous les étoiles qu'on vous encourage à encourager.
C'est bien dit.
C'est bien dit. Donc, on va se laisser dans quelques secondes. Merci beaucoup Marie-Ève et Simon.
Merci à toi Mathieu pour l'animation.
Fait plaisir.
Merci, même chose. Merci Marie-Ève pour l'entrevue. Excellente entrevue. Merci
oui, beaucoup. On remercie encore André Nadir. Nadir André pour
ses explications limpides et intéressantes.
Extrêmement intéressante.
Intéressante. On vous rappelle que Choc est diffusé toutes les deux semaines en direct sur le site de choc.ca, sinon notre page d'émission pour les émissions précédentes. C'est donc sur le site de Choc, évidemment, à patriotesanonymes.info et notre site Internet où toutes les émissions sont là aussi. Notre courriel à patriotesanonymes@resist.ca. Nous avons aussi une page FB pour des événements, des actualités, des communiqués, des déclarations et autres. Nous sommes diffusés, comme on le disait plutôt, sur Radio Victoria aussi, sur le FM en Colombie-Britannique. Et sinon, ben, on vous dit dans deux semaines, c'est le 24 juillet qu'on va vous retrouver les trois ici en direct dès 18h30.
Émission régulière, je crois.
Régulière, pas d'invité, avec plein de contenu de notre part à nous trois.
Voilà.
Donc, voilà.
On va vous assommer, comme d'habitude.
Plein de chiffres.
On peut pas dire vous divertir, ce serait un peu ambitieux, là, mais bon. Fait qu'on va se laisser avec les légendaires Pink Dots, la pièce Blood Money Transitional de leur nouvel album sorti en janvier dernier, qui s'appelle So Lonely in Heaven. C'est un groupe mythique de rock alternatif, rock psychédélique, fondé à Londres en 1980 et installé aux Pays-Bas depuis très très longtemps dans la région d'Amsterdam. Ils seront donc à Vancouver le 29 septembre et à Montréal le 25 octobre au Café Campus. Ça vous tente d'aller les voir pour leur nouvel album. Donc, on va s'inscrire sur une pièce d'environ 7 minutes. Donc, merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci à Simon et Marie-Ève encore. Et on vous souhaite une très bonne
soirée.
Thank you.